France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec une devinette pour commencer ce soir. Quel rapport y a-t-il entre la condamnation d'Alexandre Benalla et la mise en examen d'Agnès Buzyn par la Cour de justice de la République ? Aucun, bien sûr, si ce n'est que c'est la même personne qui est à l'origine des révélations sur ces deux affaires. En l'occurrence, Ariane Chemin, journaliste au Monde. Ariane Chemin, où l'art du scoop sans esbroufe, sans tambour ni trompette. Et surtout, une façon bien à elle de raconter la France du moment, de sentir l'air du temps, ce qui l'a amené, par exemple, à s'intéresser à Éric Zemmour il y a plusieurs années déjà. Ariane Chemin, journaliste politique et éclectique, capable d'écrire dans la même année un livre sur le professeur Raoult.
Il se passe un truc où il y a trois chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision, tout ça est fou.
Capable aussi d'en écrire un autre sur son écrivain fétiche Milan Kundera.
Qu'est-ce que c'est la personnalité humaine sans l'intimité, sans sa vie privée ? Quand la vie privée n'est plus la vie privée, la personnalité humaine s'évapore.
Milan Kundera qui s'est évaporé lui aussi depuis cette interview à Apostrophe en 1984. Également au sommaire de cette émission préparée par Irène Menem et réalisée par Juliette Gou, l'actualité de la semaine avec notamment le lancement d'un nouveau mot dièse, MeToo Media, et l'intervention d'Emmanuel Macron à 5 mois de la présidentielle. À 19h, le journal d'Hélène Philly, à 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, quel bilan pour la COP26 qui s'achève à Glasgow? N'hésitez pas à nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes. Merci à Clémentine Ducasse qui surveille vos mails. Merci aussi à Michel Bézikian, Clément Berman et Vincent Désières qui sont à la technique.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Ariane Chemin.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes journaliste au Monde depuis un certain temps, on va dire, depuis bien longtemps. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages très divers dont on va parler ce soir. Journaliste, je le disais, politique au départ, désormais grand reporter, capable de vous passionner, je le disais aussi, pour des personnages très différents. Vos deux derniers livres en donnent un aperçu, hein, puisque c'est à la fois le professeur Raoult et Milan Kundera dans la même année. Mais j'ai envie d'abord de... qu'on parle un petit peu du métier de journaliste, puisque vous êtes une grande journaliste. Dites-nous ce qui, pour vous, fait le sel de ce métier.
C'est d'avoir devant soi tous les jours des choses qui vous passionnent. C'est quand même un des rares métiers où tous les jours, la passion peut augmenter par rapport à la veille. Regardez l'année 2020, les personnages qui ont émergé. Si avec Marie-Françoise Chéguin, on s'est intéressé à Didier Raoult, c'est qu'il y a eu peu de personnages comme ça qui ont... explosé en si peu de temps, qui sont devenus des vedettes planétaires, citées par Donald Trump, Jair Bolsonaro, qui ont reçu la visite d'Emmanuel Macron, alors que personne ne les connaissait 2 mois avant.
Ça a été une année magique. Enfin, on dit ça, c'est tragique, le Covid, mais pour tout le monde et pour les journalistes aussi, ça a été un événement incroyable.
C'est très compliqué quand on est journaliste de faire la part entre l'excitation que vous procure l'actualité et puis sa tragédie. Je crois que c'est dans l'un des derniers livres de Michel Houellebecq, je me souviens très très bien de ça, il met en scène un journaliste, en l'occurrence c'est David Pujadas, je crois, et on est le soir de l'élection, de la défaite de Lionel Jospin, au premier tour de la présidentielle. Et il met en scène son héros, David Pujadas, qui à la fois est un peu consterné de ce qui se passe, et en même temps, il a l'excitation du journaliste, il dit ça va être passionnant. Et le journaliste, c'est souvent ça. Parfois, on a un peu honte de trouver passionnant ou excitant quelque chose qui se passe devant ses yeux. C'est le cas, par exemple, pour moi, d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, journalistiquement, m'intéresse, me passionne, et qui... personnellement, j'aime pas parler de ce que je peux ressentir personnellement, c'est pas tellement intéressant, mais qui, moi, m'empêche parfois de dormir, qui me sidère, qui me fascine. Voilà, c'est ça en fait, on est un peu deux personnes quand on est journaliste, on est la personne privée et puis...
Non mais ça peut effectivement vous empêcher de dormir, parce que c'est quand même quelqu'un qui va sans doute se présenter et qui est contre les contre-pouvoirs, hein, tout simplement, déjà, qui veut réduire le pouvoir des journalistes. Comment on peut vous qualifier, sinon, Ariane Chemin, vous êtes enquêtrice, grand reporter, pas forcément journaliste d'investigation, raconteuse de vérité ?
Comment on peut dire d'investigation, j'aime pas trop la formule parce que je pense que tous les journalistes doivent chercher des informations, donc tout le monde est journaliste d'investigation, à vrai dire. Sauf peut-être ceux qui, et il en faut, qui sont éditorialistes ou qui commentent l'actualité. Mais bon, il faut de tout, il faut des reporters qui vont raconter ce qui se passe un peu partout dans le monde ou en France. Il faut effectivement des enquêteurs qui peuvent aussi bien explorer le monde que le web. Hein. C'est aussi on a des nouveaux champs d'intérêt.
Alors justement, vous avez commencé il y a quoi, 35 ans à peu près, à une époque il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de portable. Ça a changé beaucoup de choses tout ça ou pas ?
Mais bien sûr, on ne travaille pas du tout de la même manière. D'abord, je ne sais pas, par exemple, je vais vous donner, moi je regarde beaucoup les réseaux sociaux, je vais fouiller sur le web, je me sers par exemple beaucoup de Google Books, des choses dont on ne servait pas du tout avant. Bon, tout est beaucoup plus simple. Ou par exemple, le reportage, on sort moins souvent son petit carnet, on peut prendre des photos avec son téléphone, c'est très pratique. Et pour reconstituer après un décor.
Et puis, il y a aussi le fait de... Avant, il y avait quoi pour Le Monde ? Une édition par jour. Avec Internet, c'est quoi ? C'est de l'édition permanente ? Il faut tout le temps mettre à jour ? Ça
oui,
change les choses aussi.
Bah, c'est formidable quand on veut publier quelque chose extrêmement rapidement. C'est très agréable de pouvoir le publier très rapidement sur le net, par exemple, ou dans des formats très différents. J'ai un exemple récent. Je faisais une enquête sur Versailles et puis j'avais été interrogée Gabriel Sandler, qui était l'ancien responsable de la communauté israélite de Versailles, comme il dit. Et je voulais parler de la ville et puis tout d'un coup, il m'a dit d'une petite voix très tranquille. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais bien dire à Éric Zemmour. Franchement, il dit que j'ai voulu enterrer mon fils et mes petits-enfants loin de France, en Israël. Mais moi, j'aurais bien aimé que ma grand-mère, qui a été arrêtée au Havre par des Français, eh bien, elle repose sur le sol français. Malheureusement, elle est quelque part en Pologne, je ne sais pas où. Donc là, j'ai fermé mon cahier et j'ai arrêté de parler de Versailles, évidemment. Et j'ai ouvert une autre case dans ma tête et j'ai appelé lemonde.fr, notre site web, pour leur dire, écoutez, je vais vous faire un tout petit article et je voudrais reproduire ce que m'a dit Samuel Sandler parce que ça m'avait bouleversé. Ça n'avait absolument aucun rapport avec l'enquête que j'étais en train de faire.
Et c'est comme ça qu'on a lu cette interview, effectivement, dans Le Monde. Ariane Chemin, il y a effectivement tout ce que vous écrivez dans le journal, sur le site du Monde aussi. Et puis, il y a les livres que vous publiez. Alors, comment ça se fait ? Parfois, le format journal, magazine même ne suffit plus, il faut aller plus loin. Vous avez besoin de plus de place, plus de...
Il peut se passer des choses après une enquête que vous avez publiée qui m'est arrivé plusieurs fois. Une fois, j'avais fait une enquête sur le mariage de Robin Agari, puis elle avait rebondi après publication. Ça m'a donné envie d'en faire un petit livre, par exemple. Pour Milagum Kundera, c'est peut-être aussi ça. C'était d'abord une enquête dans le journal parce que je trouvais étonnant de savoir que cet écrivain que j'avais lu quand j'avais 20 ans, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et dont je pensais au fond qu'il avait disparu, je me demandais peut-être même si je n'avais même pas posé la question de savoir s'il était encore en vie, et puis je l'ai croisé dans la rue. Voilà, donc ça m'a envie de savoir ce qu'il était devenu. Et après, c'est vrai qu'en écrivant un livre à partir d'une enquête, c'est pas tout à fait pareil, parce que on peut raconter un peu le making-of de l'enquête, ou moi j'ai raconté en l'occurrence la relation que j'avais nouée avec sa femme, je l'aurais pas raconté. En général, dans les articles du Monde, j'emploie jamais la première personne. J'aime pas trop la mise en scène des journalistes, enfin c'est très américain et très à la mode, surtout en télé. Maintenant tout le monde se montre en train d'interroger, comme si c'était plus important que la personne qu'on interrogeait. Mais dans un livre, c'est un peu différent. C'était aussi l'idée, en l'occurrence, c'était les éditions du Sous-Sol, de faire un peu de les récits du réel, comme l'appelle l'éditeur des éditions du Sous-Sol, essayer de raconter un peu différemment que dans un article écrit de manière plus stricte.
Alors, on en reparlera de Milan Kundera, c'est votre avant-dernier livre. Le dernier, qui est paru en juin dernier, vous l'avez écrit avec Marie-France Etchegouin, c'est donc Raoult, Une folie française, publié chez Gallimard. Pourquoi vous êtes intéressé à lui ? Parce qu'il est... Il est incroyable, quoi, c'est ça ?
D'une certaine manière, si on l'a appelé une folie française, c'est plus la folie au départ qui nous a presque
intéressé
que le personnage. Il se trouve que le personnage s'est révélé très intéressant. Mais voir tout d'un coup cet engouement, ces familles qui se déchiraient sur la chloroquine, sur la personnalité du personnage de Didier Raoult, voir cette personne qui envahissait les chaînes Tout Info, et toutes les conversations, tout d'un coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis en plus, accessoirement, c'était très français, parce qu'un débat sur la chloroquine, vous ne l'avez eu dans aucun autre pays européen ou mondial. Ça n'est pas arrivé. Donc ça nous a intéressés. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui nous a intéressés, c'est que ça raconte aussi l'époque. C'est-à-dire que je pense que Didier Raoult, il pratique une sorte de populisme médical. qui quelque chose qu'on ne connaissait pas trop. Hein,
et il se sert des outils d'aujourd'hui. Alors, on va écouter un extrait de ce qu'il a pu dire sur sa chaîne YouTube qu'il a créée, parce que ça lui permet effectivement de s'exprimer. Ça, c'est un extrait qui date du mois de septembre dernier. Il explique justement la création de cette chaîne.
Comme on nous a dit que nous ne faisions pas suffisamment de communication vers le public, on a pris le problème en main et on a fait notre propre chaîne qui s'appelle « On a le droit d'être intelligent ». Le résultat, c'est que maintenant, de façon cumulée, 91 millions de personnes ont regardé quelque chose, et volontairement. C'est pas une chaîne de télévision qu'on regarde par hasard, c'est les gens qui viennent, qui cherchent et qui regardent. Et donc, vous voyez, on n'est pas les seuls à faire de la communication. Vous voyez, l'INSERM en fait, mais enfin, ils progressent, hein, c'est pas mal. Ils arrivent à peu près un tiers de nous. Non, c'est pas si mal, vous voyez. Mais vous comprenez que ça irrite les gens. Le succès irrite terriblement.
Voilà, un petit coup de griffe pour l'INSERM au passage. Vous racontez bien ce côté un peu mégalo, quand même, dans votre livre.
Oui, c'est vrai que Didier Raoult s'aime bien. Il parle parfois même, d'ailleurs, de lui à la troisième personne. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, vous signalez le fait qu'il ait ses propres publications, sa chaîne YouTube. Et c'est l'outil de nombreux nouveaux populistes. Regardez Michel Onfray, d'ailleurs, avec qui il a tenté de faire affaire. Et puis ça s'est très mal terminé. Ils se sont disputés. Mais c'est aussi un peu la même chose. Donc effectivement, le populisme d'aujourd'hui, il utilise de nouveaux outils. Et ça, on l'a tenté de le raconter aussi.
Vous racontez très bien, notamment dans ce livre, les humiliations que les autorités lui ont fait subir. Par exemple, à l'inauguration de son institut, aucun ministre présent.
Oui, parce qu'il y avait déjà des enquêtes en cours, parce que déjà, il n'était pas tout à fait clair, j'allais dire, Didier Raoult, ça on l'a vu. Bon, il a l'air de renverser l'histoire et de se poser en victime, c'est quand même pas tout à fait toujours le cas. Mais c'est vrai que c'est paradoxal d'avoir confié un instrument comme un institut hospitalo-universitaire à Didier Raoult, c'est-à-dire que d'ailleurs il l'a obtenu parce qu'il a beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, beaucoup d'intelligence, et après tout d'un coup...
De persévérance,
et aujourd'hui on assiste effectivement à une sorte de chute qui semble absolument irrémédiable. Il est passé du firmament aux abîmes, et forcément c'est à la fois tragique, et puis ça donne évidemment l'envie de le raconter.
Vous écrivez dans votre livre, on ne comprend rien à Didier Raoult sans Natacha, son épouse, psychiatre. Il était son chef d'internat, il était marié, il a divorcé pour elle. Pour cette femme qui, dit-il, a le don d'attirer les gens à problème. Vous aimez bien chercher la femme, hein, vous, dans les histoires.
Non, il se trouve qu'elle est très importante pour lui, très très importante. Et on lui avait posé la question avec Marie-Françoise Chégon, on lui avait demandé, mais est-ce que ça vous est arrivé de vous allonger ? Et il avait répondu, non, j'ai ce qu'il faut à la maison. C'est pour ça que ça nous a intéressé d'en parler.
Sur le côté people, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, Ariane Chemin, que ce soit en politique ou ailleurs, vous vous êtes souvent intéressée à cet aspect des choses. Vous l'avez fait peut-être au tout début, avec une famille au secret sur la vie de François Mitterrand. Vous avez publié aussi La Femme Fatale, consacrée à Ségolène Royal. Il y a aussi eu le livre sur les Strauss-Kahn. Il y a eu des critiques au départ sur cette façon de travailler.
Très violente, et je suis ravie que vous m'en parliez, parce que j'ai mis un peu de temps, quelques années, à comprendre ce qui s'était passé. En fait, à l'époque, nous, on voulait, par exemple, avec Raphaël Baquet, raconter que si la présidentielle de 2007 se déroulait si mal, c'est que, en fait, il y avait un couple qui était en train de se disputer. C'est-à-dire que il y avait une femme qui avait pris la place de son mari, François Hollande, et qui l'avait laissé faire parce qu'il avait quelque chose à se faire pardonner. Et à l'époque, ça se racontait pas. Aujourd'hui, on le raconte trop. Mais à l'époque, ça se racontait pas. Et c'était pas l'idée de faire du sensationnel, pas du tout. Alors, on nous disait, c'est people. Mais moi, on m'a dit aussi, c'est people ou c'est de la vie privée, quand on parlait, par exemple, de l'enquête des agissements de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Carlton. Alors ça, je m'en souviendrai toujours, parce qu'en fait, ça m'a meurtri. Et aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment c'est injuste, les critiques qu'on nous a faites. Il fallait pas raconter Dominique Strauss-Kahn, il fallait pas raconter l'enquête du Carlton, parce qu'on nous disait, c'était le grand mot à l'époque, c'est de la vie privée. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors à ce moment-là, on parle pas de MeToo parce que c'est de la vie privée. Je veux dire, je pense qu'au contraire, on était plutôt un peu en avance.
Absolument.
Et qu'on se disait qu'il fallait parler de ça. Et les critiques ont été extrêmement vives et, je pense, injustes.
Le journalisme politique, Ariane Chemin, il a changé de nature depuis les années 80. C'est vrai que là, c'est devenu de la com, en grande partie, la politique. C'est pas évident de percer ce mur de la communication aujourd'hui.
Oui, je me souviens qu'au tout début, au service politique, avec mes consoeurs, je me souviens avec Pascal Robert-Diard, avec Raphaël Baquet, justement, on faisait partie de cette génération qui avait appris à décoder un peu la politique avec les outils de la communication politique, parce qu'on l'avait enseigné. Et donc, à l'époque, ça se faisait pas trop. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que on a l'impression qu'on ne fait plus que ça. Je vais vous faire un aveu, par exemple, je regarde quasiment plus les débats ou les interventions politiques à la télévision, parce que j'ai peur de ça, justement. Je préfère en lire un petit résumé après coup. Je vois que les commentaires après sont souvent on décortique. Alors voilà, en fait, Emmanuel Macron a voulu montrer qu'il était encore là. Vous voyez, j'imagine déjà les commentaires et en fait, ça m'intéresse plus tellement.
Ce qui vous intéresse, c'est plutôt de vous adresser directement aux gens. Ce que vous avez fait, par exemple, avec Agnès Buzyn, ce qui a valu effectivement ses confidences qu'elle a pu faire après son échec au municipal à Paris, où elle vous a raconté comment, dans quelles conditions elle avait quitté le ministère de la Santé, où elle vous a dit ben on aurait dû tout arrêter à propos de ces élections à cause du coronavirus. C'était une mascarade, des propos qui ont fait beaucoup de bruit, qui lui valent certainement aussi en partie aujourd'hui ses ennuis avec la justice. C'est quelque chose qui vous atteint, ça?
Oui, parce que, en fait, pourquoi j'ai appelé, j'ai téléphoné à Agnès Buzyn? Parce que j'attendais le second tour des municipales, elle s'était effondrée. Je me suis dit, mais c'est terrible, c'est totalement tragique, sa situation. Elle était ministre, elle a tout lâché parce qu'elle a pensé qu'elle pouvait gagner la municipale à Paris. Elle a trop écouté son entourage, elle a fait partie de ces gens qui, quand vous avez, je ne sais pas, une trentaine de personnes dans le 6e arrondissement, vous dites, je t'assure, tous les gens que je connais vont voter pour toi, sauf qu'ils savent pas ce que c'est qu'une élection. Et Olivier Véran l'avait remplacé, se débrouillait plutôt bien, je trouvais. Et j'arrivais pas à comprendre. En fait, je me suis posé une question toute bête. Comment un ministre de la Santé de talent, enfin, un très bon médecin, une femme intelligente, peut lâcher un ministère en pleine pandémie? Je ne comprenais pas. C'est pour ça que j'ai voulu essayer de m'expliquer ça, et je comptais voir une trentaine de personnes et passer beaucoup de temps dessus. Et c'est vrai qu'elle m'a répondu au téléphone beaucoup plus que je ne l'espérais, parce que trop tôt, d'ailleurs, je me souviens, j'étais trop tôt dans mon enquête, et je l'ai interrogée tout à fait normalement. Je l'ai pas du tout piégée, comme elle l'a dit. Elle m'a parlé, elle savait que l'article paraissait le lendemain, j'en ai averti par texto, elle savait que je la citerais, je ne l'ai pas du tout piégée. En revanche, je trouve que après coup, oui, ça m'a touchée, parce que c'est jamais très agréable que quelqu'un soit condamné, quoi, qu'on,
pour l'instant, mise en examen.
Mise en examen. Mais pour avoir été convoquée par la CJR aussi, je dois dire que je ne m'y attendais pas du tout, je n'avais pas de motif, on m'a téléphoné, il faut que vous veniez. Moi, j'ai fait valoir ma position de journaliste, c'est-à-dire je n'ai rien de plus à dire que ce que j'ai écrit dans mon article, mais j'étais, je dois dire, très troublée, d'ailleurs je ne l'ai pas raconté, mais par les questions qu'on me posait. Je trouvais que les questions étaient extrêmement à charge contre Agnès Buzyn, et c'était un interrogatoire qui m'a déstabilisée à tel point que je me souviens que j'ai dit j'aimerais que vous notiez, que j'avais dit ça à la greffière, j'aimerais que vous notiez que je n'ai rien de plus à dire que ce que j'ai écrit dans cet article, parce que je me suis sentie un peu piégée par cet interrogatoire. J'avais l'impression que voilà, c'était des juges en mission, et je dois dire, je devrais pas le dire, mais ça m'a gênée.
Surtout que ce n'était pas la première fois que vous aviez affaire à la justice pour votre travail. On va y revenir, Ariane Chemin. Mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin. À la une, évidemment, l'intervention du chef de l'État mardi. Mais d'abord, direction Lourdes, où les évêques ont apporté un début de réponse au scandale de pédocriminalité qui touche l'Église catholique.
Les évêques de France ont décidé d'abonder ce fonds autant qu'il est nécessaire, en se dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers de la Conférence des évêques ou des diocèses.
Lundi, à Lourdes, le président des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, promet réparation pour les faits de pédocriminalité dans l'Église. Un début de réponse pour les victimes, mais certaines attendent bien plus.
Que mon prédateur y soit viré, débroqué, et qu'on ne parle plus de lui.
Mardi, plus de 20 millions de téléspectateurs pour suivre la déclaration du président de la République, alors qu'un début de cinquième vague de Covid commence à inquiéter.
À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire.
Si vous avez plus de 65 ans, que vous avez réalisé votre deuxième dose il y a 6 mois, vous avez 5 semaines pour réaliser votre rappel, faute de quoi le passe sanitaire sera désactivé.
On s'y attendait, mais ça saoule. Parce que on a fait la première, la deuxième injection. L'idée de se remettre une dose...
Pour les enfants, c'est le retour du masque à l'école partout.
Bah, c'est un peu dommage, c'est gênant, ça va être pénible, mais on va s'y faire. On a l'habitude maintenant.
Une allocution de près d'une demi-heure pour le président, mais le Covid n'était que le hors-d'œuvre. Le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli.
Il a commencé par nous parler de la troisième dose de vaccin, mais très vite, il nous a parlé d'une éventuelle deuxième dose de Macron.
Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays.
Lui, comme candidat, voilà ce qu'il propose. 6 EPR de plus. Et puis mettre des mini-centrales partout, je suis absolument contre, c'est pas sérieux.
Surtout, dit Jean-Luc Mélenchon, qu'il y a une petite formalité dans 5 mois.
Il annonce ça comme ça, comme si ça allait être fait. Mais non, mon bonhomme, on vote avant. Hein.
Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues.
Il a fait une tentative de hold-up à nouveau sur les idées de la droite.
Valérie Pécresse, candidate à la candidature LR, s'est retrouvée avec ses concurrents à Colombey-les-Deux-Églises mardi pour le traditionnel hommage au général de Gaulle, à l'heure où d'autres voix, à la droite de la droite, s'en réclament.
Les vrais gaullistes, c'est nous. Le général de Gaulle, aujourd'hui, s'il revenait, je pense que c'est nos solutions qu'il adopterait.
Mais le débat interne n'est jamais loin. Et à la rubrique « Plus gaulliste que moi, tu meurs », Michel Barnier a un argument à faire valoir.
Depuis que j'ai 15 ans, lycéen, c'est Jean Moulin d'Albertville, j'ai des remouvements des jeunes gaullistes et ça reste la principale fierté.
On termine avec la sortie de route de la semaine. Elle est signée Arnaud Montebourg.
Nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération.
Ce sont des transferts d'argent privé là dont vous parlez.
Et ce sont des transferts d'argent privé.
Autrement dit, les immigrés et les autres ne pourront plus envoyer d'argent pour aider leurs familles restées au pays.
Je me suis fait engueuler.
Tiens donc.
Par des gens que j'aime. Je dirais que c'est une incompréhension.
Il faut dire que ce jour-là, il avait fait particulièrement fort.
Charles Aznavour, Zinedine Zidane, ce sont devenus les grands Français. Mais avant, ils ont été des immigrés.
Et non, ils sont tous les deux made in France, nés à Marseille et à Paris.
Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord.
Et encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin pour ce mix de l'actualité. Une semaine en France avec la journaliste du Monde, Ariane Chemin, pour commenter l'actualité de la semaine. Un petit mot sur Arnaud Montebourg ou... Camarade de promo, vous l'avez raconté ça dans votre livre la promo de Sciences Po.
Je pense que je ne l'avais pas parlé. À l'époque, j'ai reconstitué un peu en allant les voir l'ambiance de cette époque-là. Mais non, mais je pense qu'il est victime de la folie du climat ambiant. Ce climat, cette zémourisation des esprits rend tout le monde complètement dingue. C'est le commentaire que je pourrais faire.
La prochaine campagne présidentielle, Ariane Chemin, ce sera pour vous quoi, la sixième? Si j'ai bien compté.
Vous comptez quelque chose comme ça. Peut-être. Hein, ouais.
Elle s'annonce encore plus incertaine que la dernière. Éric Zemmour a déclaré tout à l'heure qu'a priori, bon, il a parlé de sa candidature cette fois-ci pour la première fois. Il a dit « Je la souhaite suffisamment efficace, pertinente, percutante pour que des millions et des millions de gens comprennent ce que je veux dire et faire. » A priori, ce serait imminent. Vous vous êtes intéressée à Éric Zemmour depuis longtemps, Ariane Chemin. Qu'est-ce qu'il dit de notre époque, justement?
Alors, je suis obligée de faire un aveu. Je m'y suis intéressée depuis très longtemps. Parce que quand son livre est sorti, Le Suicide français, j'étais sidérée qu'on puisse publier dans une grande maison d'édition avec une sorte d'impunité des remises en cause de vérités historiques, comme il le faisait, remettant en cause les thèses de Robert Paxton. Il y avait des passages que je trouvais légèrement antisémites. Il faisait une sorte d'éloge de Dieudonné. C'était passé ainsi inaperçu. Et j'avais voulu le suivre à l'époque. Il faisait une tournée pour son livre et je l'avais suivi d'ailleurs, je me souviens très très bien, à Béziers. Et j'avais vu cette espèce de mue. Il arrivait, il montait dans une limousine, dans tout Béziers, il y avait des affiches 4x3 avec sa tête. Et je me suis dit, c'est incroyable parce que lui, il a passé son temps à observer les politiques et il se passait quelque chose comme s'il passait de l'autre côté du mur. Mais si je veux être complètement franche, je ne croyais pas du tout à sa candidature. Quand je vous disais que j'étais effrayée par Éric Zemmour, c'est plus l'impunité dont il bénéficie.
Le fait que malgré ses condamnations, il puisse se présenter.
C'est-à-dire que j'ai été voir un meeting où il y avait que des gens très bien mis, beaucoup de petites rosettes de Légion d'honneur, je sais qu'il fait un tabac dans les Rotary, dans les Lions Club, il plaît à une forme d'élite. Et c'est ça qui me fait peur. Je pense forcément, c'est une banalité de le dire, mais à ce livre de Julien Binda qui était écrit à la fin des années 20, début des années 30, La trahison de Claire, je pense à ça. Je fais pas une comparaison, mais je pense à ça. C'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que il peut passer dans des émissions de service public alors qu'il n'est pas candidat. Il est invité dans des petits clubs très sélects avec des dirigeants d'entreprises françaises. Il est interrogé sur des sujets. D'abord, et puis ses idées infusent, même quand il n'est pas là. Il est quand même là comme une sorte d'ombre qui plane sur cette campagne. On l'a bien vu lors du débat des candidats à la primaire de droite. Éric Zemmour n'est pas candidat pour LR, mais il était là comme un fantôme qui rôdait, parce qu'on sentait que les discours étaient beaucoup plus radicalisés. C'est ça qui me fait peur chez Éric Zemmour.
Un autre personnage auquel vous vous êtes intéressé, Ariane Chemin, c'est Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Vous lui avez consacré un livre avec Vanessa Schneider, Le mauvais génie. Il se trouve que le procès de l'affaire dite des sondages de l'Élysée s'est achevé cette semaine. Il y a des réquisitions contre lui. Le parquet a demandé 2 ans, dont un ferme. Ça dit quoi, là encore, du moment? Parce qu'il était à l'Élysée, Patrick Buisson.
Oui, on l'a pas vu à l'époque, mais il a passé 5 ans à l'Élysée. Et quand on pense que c'est un idéologue maurassien d'extrême droite qui a dirigé Minute, qui a été condamné et qu'il était là dans le salon vert avec Claude Guéant, Nicolas Sarkozy, des tas de ministres, des sondeurs. Tout ça paraît incroyable quand on pense qu'il a dirigé la chaîne Histoire, hein, qui est quand même un outil dans l'esprit de Patrick Buisson, parce qu'il pratiquait ce gramsciisme culturel qui consiste à dire on va envahir les plateaux télé, on va diffuser et infuser dans les esprits plutôt que se battre dans les urnes. C'est ça, ça. Eh bien, en fait, je me dis que c'est le début de tout. D'ailleurs, c'est par hasard si il a été l'un des mentors d'Éric Zemmour. Après, il n'a pas cru à sa candidature et aujourd'hui, il conseille Marine Le Pen. Mais ça a quand même été un des mentors d'Éric Zemmour. Et Éric Zemmour, c'est pas du tout un petit Trump ou un espèce de clown, ou je sais plus quelle est la formule qu'avait utilisée Anne Hidalgo, qui me paraît totalement inadéquate. Éric Zemmour, c'est un enfant de Maurras. Hein, c'est quelqu'un qui a lu Drummond. C'est un homme d'extrême droite, formé avec des gens comme Patrick Buisson. Et c'est pas du tout un rigolo, un culte, pas du tout.
Voilà, et le jugement contre Patrick Buisson sera rendu, je le précise, le 21 janvier prochain. À propos de jugement, on va passer quand même, on va dire un mot de l'affaire Benalla, Ariane Chemin, parce que c'est vous qui avez révélé que l'homme qu'on avait vu frapper des manifestants le 1er mai 2018 à Paris était un conseiller de l'Élysée. C'est ce que ça a donné comme affaire ensuite. Le jugement a été rendu il y a une semaine tout juste. Je voudrais juste qu'on se mette en mémoire ce qu'a pu dire la présidente du tribunal lors du rendu du jugement, Isabelle Prévost-Desprez. Ariane Grissel était au palais de justice.
Ce 1er mai 2018, Alexandre Benalla n'est pas simple observateur aux yeux des policiers qui l'accompagnent sur la manifestation, mais l'Élysée observateur, juge Isabelle Prévost-Desprez. Pendant les 40 minutes que dure la lecture de ce jugement sévère, la présidente décrit un chargé de mission semblant jouer de sa proximité avec le chef de l'État pour adopter un comportement qu'elle qualifie d'inadmissible. Il est vrai qu'Alexandre Benalla a pu se croire conforté dans ce sentiment d'impunité, note la juge, qui rappelle que personne n'a signalé avant les révélations du Monde que ce n'était pas un policier qui apparaissait sur la vidéo de la contre-escarpe. Et si Déo Gradé ont enfreint la loi pour lui donner des images de vidéosurveillance, c'était, dit-elle, pour plaire aux proches du président. L'ex-chargé de mission, pull noir, lunettes au verre fumé, écoute droit à la barre ce jugement qui l'accable, évoquant le fait du prince, le sentiment de toute puissance. Alexandre Benalla également condamné à 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique parce que, souligne la présidente, vous n'êtes pas digne d'exercer une telle fonction, étant dans la confusion sur la responsabilité qui en découle. Avant de lancer, vous avez trahi la confiance qui vous a été faite.
Voilà pour ce jugement. L'avocate d'Alexandre Benalla a annoncé qu'il allait faire appel, maître Jacqueline Lafont, sur BFM TV.
Quand la justice hérite de procédures qui ont provoqué un tel déchaînement médiatique et ensuite une telle débauche de moyens sur le plan judiciaire, eh bien la justice est condamnée à condamner. Et elle est condamnée à condamner sévèrement. Voilà. Et elle est condamnée à venir justifier cette dérive et cette débauche. Voilà ce que je pense aujourd'hui. Aujourd'hui, le tribunal est allé jusqu'à reprocher à Alexandre Benalla de s'être défendu durant toute la procédure. La justice est allée jusqu'à lui dire qu'il méprisait la justice. On lui a asséné qu'il était dans un sentiment de toute puissance. On lui a reproché de refuser de reconnaître les faits. On lui a dit qu'il était indigne, mais je n'ai jamais entendu cela. Jamais.
Voilà, il y aura donc un deuxième procès puisqu'il fait appel. Cette affaire Ariane Chemin, elle vous a valu à vous aussi d'être entendue par la DGSI avec le directeur de la publication du Monde. Comment vous l'avez vécu, ça?
Alors franchement, à côté de ce que vit Alexandre Bénal, j'ai pas envie de m'apitoyer sur moi-même. J'ai jamais su ce que ça avait donné. C'est une petite tentative d'intimidation, je pense, mais bon, peu importe. Alexandre Bénal, il a été lourdement condamné, c'est vrai. Hein, c'est vrai, et j'ai pas du tout envie de me réjouir. On se réjouit jamais quand quelqu'un hérite d'un bracelet électronique ou est condamné à des peines lourdes.
Comme c'est une affaire sensible quand même, Ariane Chemin. On subit des pressions quand on enquête sur ce.
Moi non, j'ai pas l'impression. En fait, c'est des pressions indirectes. C'est-à-dire que quand vous avez un président de la République qui dit à la maison de l'Amérique latine quelques jours après que le Monde ait révélé cette affaire, nous avons une presse qui ment. Ça, je dois dire, c'est vrai que ça m'a choqué. Alors, est-ce que c'est une pression? C'est une pression indirecte, mais c'est désagréable. Je me souviens aussi de nombreux responsables de La République En Marche qui avaient développé des sortes d'éléments de langage qu'on retrouvait partout. On trouvait même des courriers d'électeurs et des mails semblables qui arrivaient au Monde. Le Monde en fait trop, ça n'est rien. Bon, on voit bien aujourd'hui que ça n'est pas rien. Non, cette affaire, elle a bel et bien existé. Mais je pense que Isabelle Prévost-Desprez a tout à fait raison quand elle dit que s'il jouissait de ce sentiment d'impunité, c'est que voilà, il y a autour d'Emmanuel Macron une sorte de cour, et c'est vrai qu'il a été protégé, Alexandre Bénal, sans peut-être même l'avoir demandé, parce que on savait que Emmanuel Macron l'appréciait et qu'il fallait le ménager.
Je le disais, que vous avez été entendu par la justice un certain nombre de fois. Il y a eu des procès, Ariane Chemin, par rapport à votre travail. Combien de procès en tout?
Alors, je crois qu'il y en a eu 13, et le 13e d'ailleurs concerne Patrick Buisson, puisque il nous avait attaqué avec Vanessa Schneider lorsqu'il avait fait appel après un livre que nous avions écrit, et nous venons de le gagner. Donc en fait, 13 procès, et je les ai gagnés les 13.
Et vous dites que celui dont vous êtes le plus fier, c'était d'avoir fait condamner le révisionniste Robert Faurisson.
Oui, ça c'était à l'époque, parce que Robert Faurisson, il attaquait systématiquement tous ceux qui mettaient en cause ses propos, et il l'a fait d'ailleurs par exemple pour Robert Badinter, et en général il s'en sortait, il gagnait il se plaignait de personnes qui s'en sortaient au bénéfice de la bonne foi. Et là, c'est vrai que la justice avait fait valoir l'exception de vérité, parce que peut-être par rapport aux personnes qu'il avait attaqué auparavant, j'étais d'une autre génération, c'est-à-dire que j'ai expliqué à la barre que j'étais une enfant de la loi Guesso, si je puis dire, et que je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas dire que Robert Faurisson était, comme je l'avais écrit, un falsificateur de l'histoire, un menteur professionnel, et j'ai l'impression peut-être que c'est cet argument qui l'a emporté.
La loi Guesso qu'Éric Zemmour voudrait bien voir disparaître. On va parler de vous dans un instant, Ariane Chemin, mais on va d'abord écouter Bernard Lavillier, dont le dernier album sort officiellement aujourd'hui même.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, enchaîner. enchaîner, enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
Cœur du monde, Bernard Lavillier, merci à Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Toujours en compagnie de la journaliste du Monde, Ariane Chemin. Ariane Chemin, on va parler un petit peu de vous, c'est la règle du jeu. On va pas dire grand-chose, allez, parce que je sais que vous n'aimez pas trop parler de vous, mais vous êtes née, on peut le dire, en 62. Vous avez grandi dans la région parisienne, dans une famille dont les origines se trouvent des deux côtés de la Manche. Famille galloise, du côté maternel. C'est votre grand-père qui est venu en France, si j'ai bien compris. Mmh. Il était d'abord mineur, il est devenu pasteur.
Exactement.
Et il est venu ici.
Son histoire, c'est celle de « Qu'elle était verte, ma vallée ». Vous savez, c'est, ouais, on voit ses enfants avec le visage tout noir, des petits chariots traînés par des poneys dans les couloirs de la mine. C'était près de Cardiff. Et il m'avait raconté, je me souviens bien, qu'il lisait à la lumière d'une bougie sa Bible. C'est très bien raconté dans ce film et dans ce livre, Qu'elle était verte, ma vallée. Il y avait beaucoup de... C'était à l'époque le seul livre qu'on lisait dans ces maisons de mineurs, où on voyait d'ailleurs pas le jour, sauf le dimanche, hein, où on travaillait tous les jours. Et il avait voulu être pasteur et il est arrivé en France avant la guerre et il a été fait prisonnier comme britannique au fort de Saint-Denis.
Culture protestante, vous insistez là-dessus. Alors du côté maternel, du côté paternel aussi. En quoi est-ce que c'est important, Ariane Chemin?
En fait, j'insiste dessus. C'est quand on me pose la question de savoir ce qu'il me reste de une éducation protestante. C'est pas une éducation tout à fait. C'est une éducation particulière.
C'est votre côté Merkel.
Ah bah j'adore Merkel, ah, oui, je vois très bien ce qu'elle a de protestant. Je pense qu'il reste forcément dans une éducation protestante, surtout quand on a eu un grand-père pasteur. Alors j'espère qu'il ne reste pas trop de rigidité, parce que j'adore rire, mais il reste peut-être, oui, une morale. Mes parents, c'est quelqu'un pour qui l'éthique a beaucoup d'importance, pour qui le devoir d'assistance, je pense aux migrants, a beaucoup d'importance. Oui, ça c'est évidemment, et toujours, c'est toujours le cas pour eux.
Maman infirmière, un papa qui travaillait à la régie Renault. Vous avez fait des études de lettres, Hippocagne, Cagnes, Sciences Po en 86, vous l'avez raconté dans la fameuse promo. Vous êtes devenue journaliste avec un stage au Monde, on a dit journaliste politique au départ, mais c'est très éclectique ce que vous faites, Ariane Chemin. Vous aimez la littérature profondément.
En fait, j'aime ce qui se passe sous mes... Le journalisme, c'est quand même un métier formidable. Vous pouvez vous passionner toute la journée pour des choses qui se passent sous vos yeux et vous avez la chance de pouvoir les raconter et d'aller explorer ce qui, pour vous, fait mystère ou curiosité. Donc, c'est vrai que... Oui, peut-être que de mes études de lettres, il me reste un intérêt particulier pour les écrivains, la figure du grand écrivain, comme on dit en France, et elle est typiquement française, puisque je pense que c'est quand même un des pays où on raconte moins le destin. Ils sont intouchables en France, les écrivains, ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays anglo-saxons ou même dans la presse italienne, et ça m'intéresse de les raconter dès lors qu'ils épousent leur époque et leur temps. Milan Kundera, il raconte très très bien toute la tragédie.
Je voulais qu'on le réécoute, mais là, vous êtes tellement bavarde qu'on va pas avoir le temps de le réécouter. vous l'avez pisté absolument partout jusqu'en République tchèque. Vous êtes en contact avec sa femme, mais toujours rien, vous ne l'avez pas rencontré, lui.
Non, mais d'abord, il est très âgé, et je l'ai eu simplement brièvement au téléphone. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait traversé le XXe siècle et toutes les tragédies du XXe siècle m'ont intéressée. Je me suis aussi intéressée à Michel Houellebecq parce que c'est un écrivain qui parle de son temps, hein, qui publie ses livres la veille de c'est un hasard, mais ça a eu beaucoup d'importance, la veille des attentats de Charlie Hebdo. C'est un spécialiste du 19e, mais qui raconte comme personne le postmodernisme. Donc ça m'intéresse. Et surtout, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand même, un peu d'essayer d'aller un peu plus loin que la fameuse statue du commandeur et voilà, de ces postures qu'on n'a pas le droit d'interroger ou ces enquêtes qu'on ne pourrait pas faire sur des personnalités publiques.
Vous intéressez à des tas de choses. Vous avez aussi écrit un livre avec Raphaël Baquet sur la ville de Trappes, la communauté. C'est votre façon à vous. Vous avez même travaillé sur un fait divers, je crois. Elisa Pilanski, c'est...
Oui, alors j'adore. Bien, j'en ai fait beaucoup au milieu des années 2000.
Parce que c'est vrai qu'au Monde, on se dit, a priori, le Monde snobe un peu les faits divers, sauf quand ils arrivent en justice.
Non, alors là, si je puis me permettre, vous vous trompez, au contraire.
Quand ils arrivent en justice, c'est différent.
Non. Il y a une tradition, une grande tradition de faits divers. D'ailleurs, moi, je me souviens que j'ai aimé Le Monde par ses faits diversiers. Je me souviens de Philippe Podiot, je me souviens de Daniel Schneiderman, je me souviens de toute une génération, Laurent Grisamer, qui racontait des faits divers. Et aujourd'hui, on a toute une jeune génération de journalistes qui sont des faits diversiers, qui les racontent merveilleusement. Je pense par exemple à Lorraine de Fouché, que je trouve formidable. Et j'ai adoré faire raconter des faits divers. Et je pense que c'est très important pour un journaliste d'en raconter, parce que je pense que c'est le journalisme le plus difficile. D'abord parce qu'il est très concurrentiel, et parce que ça exige beaucoup, beaucoup d'enquêtes.
Et surtout des retours de ceux qui sont sur le terrain. J'ai une petite question, j'en reviens à la politique, Ariane Chemin, pour terminer. Bientôt à la présidentielle, un journal comme Le Monde doit-il s'engager par rapport à ce qui va se passer?
Alors, c'est l'éternelle question dont on débat dans la rédaction. Là, souvent, d'ailleurs, on a la semaine prochaine un comité de rédaction. Mais c'est évidemment évident, enfin, ça me paraît, je ne veux pas m'engager pour la direction du journal, mais évidemment que si, par exemple, Éric Zemmour est candidat avec les propos racistes, xénophobes qu'il tient, comment voulez-vous que Le Monde ne s'engage pas pour dire que, voilà, nous sommes pour la démocratie, le respect de l'état de droit, contre le racisme, ça me paraît évidemment clair.
Merci mille fois, Ariane Chemin. Je rappelle vos derniers livres, À la recherche de Milan Kundera, aux éditions du Sous-Sol. Raoult, une folie française, avec Marie-France Etchegoin, c'est chez Gallimard. Et puis il y a toujours cette BD, Benalla et moi, au seuil. Et puis bien sûr, on vous lit dans les colonnes du journal Le Monde.